RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Jean.
Bonjour Mathieu.
Comment vas-tu?
Très bien, merci. Merci pour l'invitation.
Eh bien, c'est moi qui te remercie. Jean Cao, tu es donc œnologue conseil auprès des vignerons indépendants ici au Luxembourg, c'est ça?
Oui, voilà.
On est là pour parler de cette période qui est une des périodes les plus importantes pour les vignerons ici au Luxembourg. C'est la période des vendanges. Alors, certains ont déjà fait hein, les vendanges, on le sait, ça peut être un boulot étudiant. Est-ce qu'il y a une date précise pour les vendanges ou au contraire, est-ce qu'on est amené à surveiller ça un petit peu comme un plat sur le feu?
La vendange est un point très important, on peut dire le point culminant de la partie de faire des vins. Okay? On a tout un travail qui s'est fait tout au fil de l'année et ça se culmine dans la partie vignoble à la vendange. Donc c'est très très important, je veux dire, peut-être le plus important, la vendange et la date de vendange. Donc ça, tous les vignerons le savent. Et donc ça mène beaucoup de réflexions. Des stress aussi, parce que la réflexion, ça va être d'un point de vue technique, mais le stress, ça va être, ben, il faut faire tout un management de tout ce qui va se passer. Ok, dans la vigne, avec tout le personnel, avec tous les raisins qui arrivent. Donc, tout ça, ça arrive dans une courte période, ça peut être de 3 semaines à 5-6 semaines, mais quand même, ça reste petit. Donc c'est très très important d'être là et de surtout suivre chaque pas.
Et comment on identifie alors, c'est-à-dire qu'on vient se promener dans la vigne vraiment tous les jours pour essayer de repérer un peu le terrain?
Oui, je vais être un tout petit peu technique. À partir de que la courbe de chargement en sucre de la vigne et il commence à atteindre le maximum, un tout petit peu avant, nous on commence à aller très souvent dans la vigne. Donc on essaye de couper la lecture qu'on puisse avoir dans une lecture analytique. Donc on fait des analyses, mais aussi on fait des dégustations de baies. Okay? Ça c'est très important, on va à la vigne, on va dans la parcelle, on se promène carrément dans la vigne et visuellement et gustativement, on détermine quand va être la bonne date pour vendanger, selon ce qu'on cherche comme produit. C'est pour ça qu'à partir de cela, on construit, on fait la réflexion de qu'est-ce que ça va être comme type de vin qu'on va mettre en bouteille. On avait travaillé toute l'année pour ça, et là, en dégustant les vins et en s'aidant bien évidemment de les résultats analytiques, on peut déjà faire une approche vraiment très exact de ce qu'on va vendanger, ce qu'on veut faire comme vin.
Alors, voilà. Exemple concret, on est dans un champ qui fait plusieurs arts. Déjà, est-ce qu'on coupe tout d'un coup?
Non, en fait, ça peut nous arriver de couper tout d'un coup, une seule fois. On dit aujourd'hui, c'est bon, ça se déguste bien. On détermine que dans un ou deux jours, ça va être tout vendangé. Et on le fait. De toute façon, on passe un jour avant et on le déguste. Ou ça peut avoir beaucoup d'hétérogénéité à la parcelle, qu'on les voit, on les déguste, on l'analyse, on se rend compte de ça et on dit bon, écoute, on va faire la vendange en 2 fois, la même parcelle, on peut passer 1-2 passages, suivant 2 passages, 3 passages c'est rare parce que là on commence à avoir des problèmes plutôt de gestion et économique aussi parce que ça peut être très très difficile de passer 3 fois dans une parcelle, mais ça nous arrive suivant de passer 2 fois au moins.
Alors, on sait qu'on a plusieurs manières de récolter hein, grâce aux machines. On va expliquer un petit peu le principe, comment une machine finalement peut couper des baies, mais aussi à la main. Quand c'est comme ça, on fait quoi? On coupe toutes les baies? On en laisse sur la plante ou pas? Comment ça marche?
Tu as posé une très très belle question, Mathieu. En fait, jusque là, ça arrive l'intérêt de la technique et de la lecture qu'on a. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les vignerons, il va apprendre et il va montrer aux vendangeurs aussi qu'est-ce qu'il souhaite vendanger, quel type de baie, comment ça va être les raisins. Donc, dans certains cas, on peut arriver à sélectionner même les baies. Okay? Donc, ça, c'est on travaille très, très, très rigoureux. Vraiment, on arrive avec des choses très spécifiques, mais ça se fait très souvent. Parce que les inclémences du climat, parce qu'on souhaite monter en qualité, que c'est vraiment la plus grosse partie, je dirais, tous les vignerons indépendants cherche ça, la qualité avant les volumes, avant vraiment ça. Donc c'est suivant de vendanger parfois deux fois la parcelle et alors aller chercher les maturités qui nous convient grappe par grappe, presque. Okay. Donc ça c'est fait et on fait un tri aussi à la vigne et aussi au chai.
Alors on a l'image souvent de voir des vendangeurs qui ont tendance à cueillir très très vite quand il pleut. Oui. C'est parce qu'ils sont pressés de partir ou il y a une autre raison?
Non. En fait, quand il pleut, ça peut nous changer complètement les plans de ce qu'on avait programmé pour la vigne en question ou vis-à-vis de qualité de vin. En qualité de vin, donc ce qui se passe, c'est l'eau, il peut avoir deux facteurs. Déjà, le principal, c'est la dégradation en elle-même de la vendange vis-à-vis des maladies cryptogamiques qu'il puisse avoir ou aussi des maladies des champignons qu'il peut avoir dans les raisins. Donc ça, bien évidemment, on l'évalue. Et ça, c'est un facteur pour lequel on puisse avancer la vendange ou faire un peu plus vite. Le deuxième facteur, ça va être aussi qu'il puisse avoir une dilution dans les produits qu'on cherche. Donc on va avoir un peu plus d'eau et on ne souhaite pas ça pour nos vins. Donc, parce que la vigne, si on plante, elle va absorber un peu de cette eau-là, ça ne se passe pas tout de suite. Mais entre ces deux facteurs que j'ai bien dénommés, les problèmes sanitaires et la possible dilution qu'il puisse avoir, ça nous fait reprogrammer la vendange. Et ça peut aller très très vite. Ça veut dire qu'on monte en équipe et on puisse aller vraiment vite à vendanger parce qu'on ne souhaite pas avoir cette problématique. Ça pourrait être catastrophique complètement.
Donc il y a cette étape où on coupe le raisin, donc on met ça dans des paniers en général ou alors dans des grands bacs. Et là, ça part au chai. Qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? On se penche tout de suite sur le problème? On attaque tout de suite?
On va vendanger et l'idée, c'est de pouvoir arriver le plus vite à la cave. Okay, ça peut être un jour ensoleillé avec une température élevée, ça peut être un jour pluvieux. Il faut faire attention que les raisins ne se tassent pas, qu'ils ne prennent pas de chaleur, qu'ils ne prennent pas de l'eau non plus, s'ils veulent avoir de l'eau. Donc ça, c'est des points aussi qu'on doit gestionner et on doit faire très très exact pour qu'on puisse réservoir toujours un raisin de qualité. Il faut penser ou il faut se mettre à la place des vignerons. Ils cherchent à chaque pas de la vendange que son matière première, que c'est les raisins, il arrive à une qualité exceptionnelle. Parce que c'est là que ça se fait les vins, avec une qualité exceptionnelle des baies.
Il y a plusieurs étapes en fait, hein, techniquement. Hein, on va retirer en fait les baies, on va presser. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu ça dans l'ordre?
On va arriver avec les raisins et on va décider si on va égrapper ou pas. Ça veut dire égrapper, c'est séparer les baies de la grappe. Okay? Donc ça peut se faire qu'on ne sépare pas et on fait un pressurage direct si on cherche à faire des créments. Mais si on cherche à faire des vins, ça peut être les deux solutions selon la qualité des raisins et selon ce qu'on cherche. Okay? Donc on peut passer à séparer juste les baies et les baies, de nouveau on fait un tri et ils passent au pressoir. Au pressoir, de nouveau, on va faire un choix de comment on va pressurer et on va fractionner les jus. Bien évidemment, la qualité des jus, c'est pas les mêmes avec les premiers jus qui arrivent, les jus au milieu et les derniers jus. Donc, sans rentrer vraiment dans les points spécifiques et la technique, c'est un peu comme ça que ça se passe, réfléchir chaque pas. Donc, il y a beaucoup de réflexions et ça nous amène à beaucoup de stress aussi.
Alors maintenant, on va tordre le cou à certaines impressions. Certaines personnes se disent, bah tiens, on fait du vin rouge de cette manière, du blanc de cette manière, oui. Et puis le rosé, on mélange du rouge et du blanc. Non, en fait, c'est non. Pas ça.
Non.
Donc, clairement, ici au Luxembourg, la majorité de la production est dédiée au vin blanc. Est-ce qu'on peut synthétiser? Parce que bon, il y a toute une étape technique hein, finalement, mais est-ce qu'on peut synthétiser un petit peu, expliquer comment on obtient ce jus?
Je vais aborder d'abord les raisins rouges. Okay, avec les raisins rouges, on peut faire des rouges, bien évidemment. À partir de la macération, qu'est-ce que ça veut dire? De laisser les raisins en contact avec les jus. Okay, c'est là que va être extrait la couleur de la peau des raisins. Là, on va chercher l'extraction, s'il y a les contacts de ces deux-là. Mais même avec les raisins rouges, on peut faire des blancs. Comment on fait? Ben, on fait un pressurage direct. Voilà, on fait le pressurage direct et les jus qui sortent, sans les laisser en macération ou en contact avec la peau, ça va sortir un jus clair, presque transparent, avec un tout petit peu de couleur, que ça va se perdre au fil du temps de la fermentation. Parce que la fermentation, il va faire perdre cette petite teinte qu'il puisse gagner pendant le temps de pressurage. Voilà, donc avec un raisin rouge, on peut faire des blancs et des rouges. Et avec les blancs, on peut faire que des blancs. Il n'y en a pas de secret. Sauf avec les pinot gris. Les pinot gris, il y a une petite teinte. Donc c'est de là que ça vient son nom, qu'il y a une petite teinte rouge. Si on les laisse macérer longtemps, on peut se faire les gris des gris. Que c'est un vin rosé avec une teinte très 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 léger. Voilà. Donc je vous avais expliqué un peu comment on fait comment on obtient les couleurs.
Voilà. Et le rosé, la particularité du rosé.
La particularité des rosés, c'est justement on prend des raisins rouges, des pinots noirs dans ce cas-là. On prend des pinots gris. Voilà. Les pinots noirs, on les laisse en macération, que ça puisse faire une extraction, mais très douce, sans pour autant arriver au rouge. Donc, je vous parle de peut-être quelques heures, parce que quand on fait des rouges, on parle de quelques jours, okay, voire quelques semaines. Donc, c'est pareil pour le pinot gris, quelques heures, voire maximum un jour et demi. Voilà. Enfin, il y en a des cas exceptionnels, mais c'est une macération qui se compte en heures et pas en jours.
Qu'est-ce qu'on en fait de ce jus? On le met tout de suite en élevage ou alors il y a on doit révéler quelque chose de manière chimique?
Oui, en fait, ce qu'on obtient, c'est les mous qu'on avait déjà en amont séparés et fractionnés. Et on avait pris les meilleurs mous. Et ces mous-là, on va encore les clarifier. On les fait par sédimentation, la plus grosse partie du temps. On fait une sédimentation et on obtient les jus clairs. Ok? Pourquoi est-ce qu'on fait cette sédimentation et cette, on va dire, clarification? Pour une question aromatique. Okay? Nous, on sait que les jus, sans les mettre de nouveau à très, très, très spécifiques, on sait qu'il y en a certaines molécules qu'on puisse faire tomber qui va éviter d'avoir des arômes végétales dans nos vins. Donc, on fait la clarification et on obtient un mou clair qu'on puisse mettre en fermentation tout de suite après.
Aujourd'hui, certains vignerons luxembourgeois font le choix donc, d'élever en barrique, donc, c'est-à-dire dans des tonneaux de bois. Ce sont des étapes qui mettent du temps en général avant qu'un vin soit vraiment abouti.
Tout à fait. Oui, on a fait les sautes complètement, on a passé la fermentation. Et de la fermentation au avant, comme je vous avais dit, on programme déjà si on mou, il va avoir les caractéristiques nécessaires pour l'élever en bois, en barrique. Donc, on cherche cette spécificité dans les raisins, puis dans les mous, si ça continue, pour pouvoir arriver en barrique. Effectivement, les barriques, ça peut nous prendre quelques mois. Normalement, on les laisse quelques mois. Parfois, on peut les laisser un peu plus d'un an, voire deux ans. C'est une chose qui se passe aussi avec beaucoup de respect, parce qu'il faut avoir les conditions nécessaires, pas seulement les vins, parce qu'on les met quand les mous, ça a été déjà fermenté, donc transformé en vin. Et on les met sur les conditions, c'est les barriques, qu'il doit avoir une certaine température, une certaine humidité. Et c'est là, on va les suivre au fil de presque chaque mois pendant l'élevage.
À ton niveau, en tant qu'œnologue conseil, est-ce qu'il t'arrive de devoir gérer des situations vraiment critiques au moment de la vendange ou est-ce que c'est forcément trop tard?
Non, mon travail d'abord, c'est l'accompagnement des vignerons. Okay? On essaye de faire tous les travaux et les choses en amont pour ne pas se retrouver avec des problèmes en face à nous, un jour avant. Donc c'est toujours une réflexion que j'ai parlé à tout à l'heure. Pour éviter cette problématique. Mais bien évidemment, ça peut arriver. Ça peut arriver des problématiques dans lesquelles moi, je dois proposer des solutions. Il n'y en a pas toujours une même solution pour les mêmes problèmes. Il y a beaucoup de variables. Donc mon travail, c'est de proposer des différentes solutions pour un problème, pour que les vignerons ils puissent prendre les plus adaptés et ainsi de suite. Mais aussi, en amont, je dois me renseigner qu'est-ce que se passe dans le monde des chimiques microbiologiques s'il y en a des nouveaux problèmes, s'il y en a des nouvelles solutions, moi je dois les connaître. Ça c'est mon travail aussi, pour pouvoir toujours avoir la force de proposition d'avoir des nouvelles solutions et aussi d'expérimenter aussi avec des nouvelles méthodes de vinification, des nouvelles façons de faire les vins. Et parce qu'à la fin, on essaye de faire un super joli vin avec une super qualité, mais surtout faire vivre l'expérience aux vignerons et aussi aux clients qui sont toujours en communication.
Et rappelons-le, le monde de la vigne, c'est un monde dans lequel il faut savoir s'adapter, donc c'est un défi de tous les jours, en tout cas de toutes les vendanges. Merci beaucoup Jean Cao, je le répète, hein, tu es œnologue conseil auprès des vignerons indépendants ici au Luxembourg, en te souhaitant des bonnes vendanges, car toi tu ne coupes pas le raisin, mais tu es là pour essayer d'aider aussi à ta manière. À très bientôt sur cette route des vins du Luxembourg.
Merci Mathieu, merci pour cette invitation et à très très bientôt.
À bientôt.
La route des vins du Luxembourg.